En 1889, la crise va toucher une autre banque, le comptoir d'escompte de Paris. Le comptoir d'escompte de Paris, ce n'est pas comme l'Union Générale, une banque d'affaires qui a été créée très récemment, qui est en train d'augmenter son activité à toute vitesse en faisant des opérations super risquées dans des pays plus ou moins exotiques. Hein, je vous rappelle que les bords de la mer Noire en 1880, pour les Français, c'est quand même au moins aussi exotique que la Birmanie aujourd'hui. Donc, le comptoir d'escompte, c'est une banque complètement établie qui a été créée en 1848 par le gouvernement pour restaurer le crédit aux PME touchées par la crise de 1847-48, très très grande crise économique à l'échelle européenne. Donc en 1889, le comptoir d'escompte a 40 ans d'existence, tout le monde le connaît, il est présent dans toutes les villes de France, voire dans toutes les, même les petites villes. C'est une banque de dépôt qui a des centaines de milliers de déposants petits et moyens et qui fait essentiellement du crédit à des entreprises de taille modeste. Et donc, c'est la quintessence de la banque de dépôt qui, normalement, a des ressources assez liquides, assez fragiles, qui peuvent partir très rapidement, mais qui, en contrepartie, a des emplois qui sont également très liquides, des emplois sous forme de report en bourse, mais des emplois sous forme de papiers de commerce, donc de prêts inter-entreprises, qui sont refinançables facilement auprès de la Banque de France, et d'ailleurs la Banque de France lui prête de manière régulière quand elle en a besoin, etc. Et aucun souci, normalement. Le problème, c'est qu'en 1889, on va avoir se rencontrer de manière complètement imprévue cette banque stable, prudente, avec, pas tout à fait ce qui est là, à gauche, mais avec la matière première dont est fabriquée cette statue, c'est-à-dire le cuivre. Alors, 1889, ça va être aussi la confrontation entre ces deux autres choses. Alors, je devrais faire une interrogation surprise pour savoir qu'est-ce que c'est que ce lion-là. Alors, quand je fais ça auprès de mes étudiants, vous avez zéro réponse en général. Voilà. Alors, quand même, voit qu'il y a quand même, il reste un peu de culture. C'est le lion de Belfort. Alors, le lion de Belfort, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire? Le lion de Belfort, c'est le surnom qu'on a donné au colonel d'enfer Rochereau qui a résisté tellement bien aux Prussiens pendant la guerre de 70 qu'il a obtenu que Belfort constitue l'exception à l'annexion de l'Alsace-Lorraine et reste dans le territoire français malgré cette annexion. Et ce lion de Belfort, qui d'ailleurs au départ devait être dans l'autre sens hein, pour rugir face à la Prusse, mais qu'on a quand même, sur demande de Bismarck, réorienté vers l'ouest pour être un petit peu moins agressif. Bon. Évidemment, la plupart des gens, en particulier à Paris, connaissent plutôt la copie qui est place d'Enfer Rochereau. C'est la même personne qui a donné son nom à la place d'Enfer Rochereau. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, il se trouve que le président du comptoir d'escompte en 1889, c'est M. d'Enfer Rochereau. Ce n'est pas ce colonel, c'est son frère. Mais évidemment, s'appeler d'Enfer Rochereau à ce moment-là, c'est quand même, c'est pas mal. Quoi. Ça vaut De Gaulle aujourd'hui, si vous voulez. Donc, c'est quand même un nom qui résonne bien. 1889, eh bien, on va avoir la confrontation aussi entre ceux d'Enfer Rochereau et le grand événement de l'année qui est l'exposition universelle de Paris 1889 où on exhibe ce curieux monument qui depuis est devenu assez célèbre. Alors, pourquoi ça? En quoi est-ce que c'est réellement important? 1889, je viens de vous le dire, ça ne fait pas longtemps que la République est réellement installée au gouvernement français, hein, disons une dizaine d'années. Des républiques, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, hein, il y a la grande sœur américaine, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est un régime absolument pas stable, que généralement ça finit comme en 1793 et que par conséquent il faut se méfier de ça. Et donc pour les républicains, c'est vraiment cette exposition universelle, c'est le moment de faire réellement la communication, on dirait aujourd'hui, de leur régime politique. Donc il faut que tout se passe bien. Or, dans les années qui précèdent, il y a pas mal d'agitation. Non seulement il y a encore des monarchistes qui s'agitent un peu à droite à gauche, mais il y a un autre général qui se prend pour Bonaparte, qui ne s'appelle que Boulanger, et qui, au début de 1889, est sur le point de faire un coup d'État, et à ce moment-là, d'une popularité inouïe, et suscite un véritable engouement populaire. Donc, autant vous dire que le gouvernement républicain, il est dans ses petits souliers, et il veut absolument que son exposition universelle réussisse pour qu'on oublie un peu ce général d'opérette, et que la situation politique se stabilise. Et c'est le moment où M. d'Enfer Rochereau, frère, va faire des siennes. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien, il va être lié à une opération compliquée qu'on appelle l'affaire des cuivres. Compliquée, enfin, pas tant que ça, parce qu'elle peut se résumer avec ce très joli graphique qui n'est pas très facile à lire de loin, donc je vais quand même vous raconter un peu ce qu'il y a dessus. Ce graphique, c'est le marché du cuivre pendant une période qui va de janvier 1886 à fin 1891. Donc, on regarde de près ce qui se passe pendant ces 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en début de période, on a en vert les livraisons de cuivre, c'est-à-dire, en quelque sorte, la demande de cuivre par les utilisateurs, essentiellement des industriels, les gens qui achètent du cuivre métal pur, c'est des industriels qui vont en faire des tas de choses. La demande, ici, relativement stable. En rouge, vous avez l'offre. L'offre, ici, à peu près égale à la demande, mais légèrement inférieure, de sorte que les stocks, qui sont en rose, sont en baisse. Quand les stocks sont en baisse, généralement, c'est le bon moment pour acheter, parce que vous vous dites, bon, si les stocks baissent, il y a un moment où il va y avoir pénurie, donc les prix vont monter. Or, les prix sont complètement stables pendant cette période-là. Donc, un spéculateur avisé se dit, mais peut-être que c'est le moment d'acheter et je vais gagner beaucoup d'argent. Et ce spéculateur avisé existe. Il s'agit de M. Eugène Secrétan, directeur d'une société qui s'appelle la Société des Métaux. Société des Métaux qui est un très gros industriel du secteur du cuivre, puisque à lui seul, il achète à peu près 10% de la consommation mondiale de cuivre. Il transforme à peu près 10% de la production mondiale de cuivre. Donc c'est un gros industriel du secteur, ce n'est pas un monopoliste, mais c'est un gros. Il est très efficace, il a des techniques à la pointe du progrès. Et il sait, lui, qu'il y a une demande pour le cuivre. On est en train de développer l'électrification. L'électrification, c'est des fils de cuivre. On a développé des nouveaux engrais qui utilisent du cuivre. On développe des tas de nouveaux produits métallurgiques pour des tas d'utilisations pour lesquels il faut du cuivre. Donc, lui, il regarde ce marché, se dit... Il y a un coup à faire, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il monte une fantastique opération de spéculation sur le cuivre, à peu près à ce moment-là. Il va voir tous les principaux producteurs, un certain nombre des principaux producteurs, et il leur dit, écoutez, il y a un coup à faire, vous allez vous engager à me livrer toute votre production, vous allez me promettre de ne vendre à personne d'autre, et moi, je vous l'achète un peu plus cher que le prix du marché actuel. Un grand nombre producteurs, de propriétaires de mines sont séduits par l'idée et s'engagent d'abord à lui vendre ce qu'ils ont en stock, puis à lui vendre leur production future. Et ceci sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Tant et si bien que M. Secrétan se retrouve avec, en gros, la propriété présente ou future d'à peu près 3 ans de production mondiale de cuivre. C'est pas mal. En tout cas, c'est plus que ce qu'il utilise pour ses propres usines d'assez loin. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il laisse filtrer dans la presse qu'il est en train de réaliser ce coup fabuleux. Et alors, immédiatement, évidemment, les gens se mettent à acheter pour être sûr d'en avoir encore, parce que sinon, il ne va plus y en avoir, et les prix vont monter. Et évidemment, quand tout le monde se met à acheter, ben, les prix montent, et les prix montent beaucoup, puisqu'ils doublent. Donc là, il a complètement réussi la première partie de son coup, hein, qui est ce qu'on appelle un corner sur le marché. C'est-à-dire, comme c'est lui qui a pratiquement toute la production, les autres ne peuvent plus acheter, et donc ils sont prêts à payer très cher pour avoir un petit peu de cuivre. Le prix augmente beaucoup. Néanmoins, évidemment, comme le prix augmente beaucoup, la demande s'effondre. Vous voyez que ici, quand le prix ici augmente, la demande se casse la figure et elle continue à baisser jusque-là. Et de manière parfaitement rassurante pour les économistes qui font de ce genre de choses le cœur de leur enseignement, eh bien, quand le prix va baisser, la demande va réaugmenter. Alors, vous voyez, il y a quand même des petites choses qu'on enseigne qui ne sont pas entièrement absurdes. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, entre-temps, les stocks s'envolent. En fait, c'est les stocks qu'accumule M. Secrétan. Alors, comment... juste un petit point technique. C'est assez rare qu'on observe les stocks sur un marché. Mais ici, les stocks sont observables parce qu'ils sont dans les magasins généraux. Alors, les magasins généraux, c'est encore une merveilleuse trouvaille de la Révolution de 48. On a créé des magasins généraux pour permettre de certifier la présence dans un entrepôt d'une quantité officiellement certifiée d'un produit, de manière à ce que le propriétaire de cette quantité puisse emprunter aux banques des montants qui sont garantis par ça. Donc on observe bien les stocks sur ce genre de marché. Ce n'est pas la totalité des stocks, il est possible qu'il y ait des stocks chez les industriels du secteur du cuivre, il y en a même forcément, mais probablement pas des quantités très importantes parce que c'est encombrant, alors que les stocks qui sont dans les magasins généraux, en gros, ils sont parfaitement gardés dans des conditions qui ne coûtent rien aux utilisateurs futurs. Donc pourquoi stocker chez soi quand on peut stocker moins cher dans les magasins généraux? Ces stocks augmentent et on voit bien qu'effectivement, les stocks augmentent tellement qu'il y a un moment où il cesse d'augmenter et c'est le moment où le prix va s'effondrer, c'est-à-dire le moment où il va falloir vider les stocks. Tout à coup, le prix va s'effondrer. Alors juste un détail en passant, l'échelle pour les stocks, c'est pas la même que l'échelle pour l'offre et la demande, hein, c'est cette échelle-là, c'est-à-dire qu'une variation grande comme ça du stock, en fait, correspond à ça sur l'offre. Hein, donc les effets sont très importants. C'était juste pour pouvoir tout mettre sur le même graphique. Il fait deux échelles différentes. Donc, voilà le cœur du problème qui se produit à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que le comptoir d'escompte est embarqué dans cette histoire-là? Ce genre d'opération spéculative, ça arrive régulièrement, et généralement, c'est financé par des hommes d'affaires qui aiment les risques, et en particulier par des banques d'affaires qui, cherchent des emplois potentiellement très rémunérateurs de leur argent, analysent bien la situation, se disent on va gagner de l'argent, et le font. Et donc M. Secrétan obtient de l'argent d'un certain nombre de banques d'affaires, et tout cela, jusque-là, ça va bien. Et s'ils gagnent de l'argent, tant mieux pour eux, et s'ils perdent de l'argent, c'est leur argent qu'ils perdent, et ça n'a pas tellement d'effet normalement sur le reste de l'économie. Donc le problème, c'est qu'ici, les choses vont se passer autrement. Les choses vont passer autrement parce que, M. Secrétan ne va pas trouver assez d'argent chez les banques avec lesquelles il est en rapport au départ pour réaliser véritablement cette opération. Parce qu'évidemment, ça représente quand même pas mal d'argent. Ça représente pas mal d'argent. En gros, il achète 300 000 tonnes de cuivre. 300 000 tonnes de cuivre. Le prix de la tonne, ici, avant que les prix montent, c'est à peu près 1 000 francs la tonne. Hein. C'est 40, là, les prix sont en livres sterling, donc c'est 40 livres sterling, 1 000 francs. La livre sterling, à l'époque, ça vaut 25 francs. Donc 1 000 francs, 300 000 tonnes, 300 millions. 300 millions, la société des métaux a des fonds propres de 25 millions. Elle augmente son capital, elle va atteindre 50 millions. 50 millions, bon, on est encore très, très, très loin de ce qu'il faut pour pouvoir acheter 300 millions de cuivre. Donc pour faire ça, elle emprunte à des banques, mais la plupart des banques d'affaires, pour la plupart des banques d'affaires, 3 millions, c'est une grosse somme. Et elles ne vont quand même pas mettre tout leur argent dans une seule opération. Et donc peu à peu, en fait, l'opération va être transférée sur le comptoir d'escompte. Le comptoir d'escompte, c'est une grande banque de dépôt, a beaucoup d'argent, et donc elle est en mesure de prêter beaucoup plus que toutes ces banques d'affaires. Évidemment, c'est complètement contraire à tout ce que doit faire une banque de dépôt que de prêter de l'argent sur une opération super spéculative. Mais bon, c'est garanti quand même, puisqu'il y a les stocks de cuivre qui sont dans les magasins généraux. C'est garanti, certes, et donc les gens, pour se protéger, ne vont pas prêter tout le montant, toute la valeur des cuivres, évaluée désormais à 80 livres la tonne, mais ils vont prêter les deux tiers ou les trois quarts. Aujourd'hui, c'est que les trois quarts de 80, ça fait quand même 60, et 60, c'est beaucoup plus que le prix auquel on va se retrouver à la fin. Ce qui veut dire qu'on va avoir des pertes très importantes dans les banques d'affaires, mais aussi, on va aussi avoir des pertes très importantes au comptoir d'escompte, et le comptoir d'escompte va se retrouver dans une situation tout à fait désagréable à la fin de cette période. Alors, comment est-ce que ça se fait, ce genre de choses? Ça, c'est une chose qui ne devrait pas arriver. Comment ça se fait? Ben, ça se fait comme ça. Il se trouve que, alors là-dessus, vous avez les principales institutions qui vont être impliquées dans l'opération, et chaque fois qu'il y a une personne qui est à la fois au conseil d'administration de l'une et de l'autre, vous avez un trait. Et ce qu'on... Alors, au centre, il y a la Société des métaux, dirigée par M. Secrétan. À droite, vous avez ce qu'on appelle le syndicat des cuivres, qui est le premier syndicat de banquiers, essentiellement de banquiers d'affaires, qui se sont impliqués d'emblée dans l'opération. Et au départ, vous avez un certain nombre de banquiers d'affaires importants qui sont là-dedans. Vous avez Rothschild, vous avez Hensch, vous avez la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui est une... qui n'est plus une banque d'affaires individuelle, mais qui est une familiale privée, mais qui est une société anonyme, qui est une grosse banque d'affaires. Donc vous avez toute une série de gens. En fait, il manque même un trait entre cette banque-là, André Giraud et compagnie, et ce syndicat. Donc il y a beaucoup de banques impliquées. Ça, c'est le cœur de l'opération. Mais au-dessus, et il y a une autre chose qui est tout à fait frappante, c'est les liens multiples entre la Société des métaux et le comptoir d'escompte, entre le comptoir d'escompte et la Banque de Paris et des Pays-Bas, et le lien direct entre le comptoir d'escompte et une des banques les plus impliquées, qui est Hensch Frères, dans laquelle il y a deux frères Hensch, dont l'un est président du conseil d'administration du comptoir d'escompte. En fait, on a un ensemble, un réseau d'agents qui vont monter cette opération ensemble et qui vont réussir à embarquer le comptoir d'escompte, qui normalement n'a aucune vocation à faire ce genre de choses, dans leur opération spéculative. Et ils vont embarquer le comptoir d'escompte et ils vont même, à la fin, essayer d'embarquer la Banque de France. Donc vous observez qu'elle est également liée par trois fois à cette grande opération. Alors pourquoi est-ce que ça se fait? Pourquoi est-ce que le comptoir d'escompte va être éventuellement embarqué là-dedans? La raison principale est probablement à trouver dans ce graphique-là. Là-dessus, vous avez les cours des actions des principales banques françaises de l'époque. Ces banques, eh ben, elles sont dans une situation qui n'est pas agréable, parce que depuis 1882, la situation économique est mauvaise, et par conséquent, pour gagner de l'argent quand on est une banque, ben, c'est difficile. Et donc, les actions de la plupart des banques sont orientées à la baisse. Et comme vous savez, les actionnaires n'aiment pas ça. Et donc, les dirigeants des banques sont sous pression, sont éventuellement changés, etc. Et il y a deux exceptions à cette tendance générale à la baisse, qui sont ici en rouge et en bleu. Et ces deux exceptions, c'est le Crédit Lyonnais et le comptoir d'escompte. Alors, le Crédit Lyonnais, c'est vraiment la grande banque innovatrice en matière de clientèle à l'époque. C'est la première véritable banque de dépôt en France. C'est une banque qui a beaucoup plus de clients, à la fois du côté déposant et du côté emprunteur, que les autres banques. Elle a un réseau beaucoup plus large et elle a inventé toute une série de manières de, en quelque sorte, généraliser, systématiser, industrialiser le crédit à petite échelle, qui font qu'elle gagne beaucoup d'argent sur un nouveau modèle que les autres peinent simplement à imiter pendant cette période, qui vont réellement imiter, surtout après 1890, après 1900. Donc elle, il y a des vraies raisons pour que son action monte. Là où c'est plus mystérieux, c'est pour le comptoir d'escompte. Parce que le comptoir d'escompte n'a pas réellement fait toutes ces innovations. Et d'ailleurs, quand on regarde son activité, son bilan, son nombre d'agences, etc., il n'y a rien. Et même, on se demande comment il gagne de l'argent suffisamment pour justifier une augmentation du cours de ses actions. Et quand on regarde, ben, en fait, les profits viennent tous de quelque chose qui s'appelle « autres opérations ». Et ce qu'on appelle « autres opérations » à l'époque, c'est ce qu'on appelle le hors-bilan aujourd'hui, c'est-à-dire des opérations qui ne sont pas réellement du crédit, sur lequel on touche un intérêt, mais qui sont des commissions, des sortes de choses dans lesquelles on rémunère son intervention sur un certain nombre de choses. Et par exemple, une des choses qui rapporte de l'argent au comptoir d'escompte ici, c'est eh bien, la garantie qu'il donne sur la bonne fin des crédits que demande la Société des métaux pour acheter du cuivre. Non, pardon, sur les contrats que la Société des métaux fait avec les compagnies minières. La Société des métaux, je vous l'ai dit, promet d'acheter le cuivre pendant 3 ans aux compagnies minières. Les compagnies minières disent, oh, d'accord, vous me promettez d'acheter, mais enfin, vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous me promettez plein d'argent pour payer mon cuivre. Comment est-ce que vous me garantissez ça? Et la garantie, elle est donnée par le comptoir d'escompte, qui a signé en bas du contrat en disant « Je paierai si la Société des métaux ne paie pas, c'est moi qui paierai. » Alors ça rassure beaucoup les compagnies minières parce que la signature du comptoir d'escompte, c'est bien. Mais évidemment, quand les administrateurs du comptoir d'escompte apprennent ça, à peu près un an après que le président du comptoir d'escompte a fait ça sans les en avertir, eh bien, ils ne sont pas contents. Mais ils sont embarqués. C'est-à-dire que la garantie est donnée et ils hésitent à débarquer leur président de conseil d'administration ou leur directeur, qui sont les deux qui ont monté ça, en craignant les répercussions sur le marché. Ils se disent, bon, on va croiser les doigts, espérer que ça passe, qu'il n'y a pas de problème, et puis, on aura gagné de l'argent, et espérons. Donc ça monte comme ça. Donc on voit la différence, en gros, c'est qu'il y a donc dans toutes ces banques en difficulté, il y en a une, en fait, qui n'a pas mérité réellement sa place dans la première division qui se détache ici, et elle l'a tellement peu mérité qu'ici, il va y avoir comme une sorte d'accident. Alors, tout le monde sait, sur la place de Paris, que la Société des métaux a des stocks considérables de cuivre. Tout le monde sait qu'elle emprunte à plein de banques, ça. Mais personne ne sait très bien, évidemment, les montants en jeu. Et les montants en jeu, évidemment, c'est le cœur de l'affaire, parce que si elle spécule sur des montants pas très élevés, qu'elle gagne, qu'elle perde, c'est pas très grave, etc. Et personne ne sait très bien quelles sont les banques impliquées. Et donc, deuxième incertitude. Jusqu'au moment où, quand même, à la Banque de France, le gouverneur dit, bon, écoutez, cette affaire, là, on en parle beaucoup, il faut que j'en sache un peu plus. Et donc, il convoque les gens de la Société des métaux et ils leur disent, bon, montrez-moi un peu vos comptes, je voudrais savoir ce qu'il en est. Et il finit par apprendre un nombre de choses. Alors ça, vous avez la situation des warrants sur cuivre. Alors les warrants sur cuivre, c'est juste les crédits garantis par les dépôts de cuivre dans les magasins généraux. C'est juste du crédit sur garanti par des quantités de cuivre. Et il leur demande, montrez-moi un peu l'état de ces crédits. Alors c'est des crédits qui sont à court terme et qui sont renouvelés, en fait, à chaque échéance, régulièrement. Donc vous avez des crédits généralement à 3 mois, donc vous voyez qu'il y en a encore, il y en a à échéance novembre, décembre et janvier, qui sont en cours au moment où on observe ces comptes, le 2 novembre 1888. Et ceci se trouve dans les archives de la Banque de France, vous avez un procès-verbal qui donne la liste, etc. Donc là, vous avez toutes les banques qui, en gros, ont prêté. Et alors, la grande surprise de la Banque de France, c'est de dire, mais oulala, je ne me rendais pas compte que le comptoir d'escompte était quand même engagé pour 24 millions dans cette opération. C'est-à-dire à peu près la moitié de la totalité des banques. La totalité des banques ayant prêté pour 45 millions. Bon, 45 millions, c'est quand même beaucoup. 25 millions, c'est un montant substantiel pour le comptoir d'escompte, puisque ses fonds propres, c'est à peu près 80 millions. Donc, c'est beaucoup. En même temps, ça reste dans la limite des choses faisables, mais il faut surveiller. Un peu plus tard, on regarde la même chose, mais cette fois-ci en 1889, et on commence à regarder, j'ai pris plusieurs séances du Conseil général, c'est-à-dire le Conseil d'administration de la Banque de France, pour regarder cette évolution dans les temps qui suivent. Et là, on a encore un accroissement des présentations. Et cette fois-ci, ici, on n'a plus les prêts des banques à la Société des Métaux, on a l'engagement de la Banque de France elle-même, à qui ces banques sont allées demander du crédit en lui demandant d'escompter, c'est-à-dire de refinancer les prêts qu'elles avaient faits à la Société des Métaux. Et là, la Banque de France se rend compte que, peu à peu, elle est en train de s'engager fortement, en particulier pour le comptoir d'escompte, et surtout que c'est de plus en plus concentré sur le comptoir d'escompte. Vous voyez que fin octobre 1888, le comptoir d'escompte représente 24 millions sur 46. En mars 1889, le comptoir d'escompte représente 32 millions sur 48. Donc le total n'a pas augmenté, mais les autres banques se sont dégagées et tout est sur le comptoir d'escompte. C'est-à-dire que le comptoir d'escompte est devenu, en quelque sorte, la seule banque qui continue à prêter à la Société des Métaux. Et pourquoi est-ce que c'est la seule? Parce que d'abord, les autres se sont rendus compte que ça allait mal finir et donc essayent de se dégager, et y arrivent. Et d'autre part, parce que c'est aussi celle qui a le meilleur accès au refinancement à la Banque de France. Et donc, le comptoir d'escompte permet à l'opération de spéculation de continuer à exister, malgré le fait qu'un certain nombre d'autres banques essayent de se retirer. Alors, là-dessus, vous n'arrivez probablement pas à lire, mais ce n'est pas grave, je vais vous raconter juste en deux mots. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, là, les choses s'accélèrent. Au mois de février 1889, tout le monde commence à se dire que cette affaire va mal finir. On sait que les stocks s'accumulent, que les crédits s'accumulent, etc. Et le gouverneur de la Banque de France convoque le patron du comptoir d'escompte, lui dit « Écoutez, vous me montrez exactement ce qu'il en est, parce que ça commence à aller mal. » La semaine d'avant, il avait encore hésité à intervenir parce que son ami Rothschild, qui était quand même le plus influent du Conseil général, avait dit « Mais non, il n'y a pas de problème, etc. » Mais là, il commence à dire « Bon. » Et quand il le convoque, il voit l'étendue des risques qui sont pris et il commence à parler de trouver des solutions. Mais avant même qu'il ait trouvé quoi que ce soit, il s'est passé un épisode désagréable. Je crois que c'est le 3 mars, le président du comptoir d'escompte, le directeur du comptoir d'escompte, M. d'Enfer Rochereau, frère, s'est tiré une balle dans la tête dans son bureau. On a cherché à étouffer la chose, mais les journaux du soir l'ont quand même su. Et le lendemain matin, évidemment, à 8 heures, il y a la queue des déposants qui veulent retirer leur argent du comptoir d'escompte. Et à ce moment-là, évidemment, les choses deviennent beaucoup plus graves parce qu'on commence à se dire, bon sang, on va avoir, 2 mois avant l'ouverture de l'exposition universelle, un krach bancaire général dans ce pays, ça va faire mauvais effet. Le ministre des Finances appelle tous les banquiers de la place, les met dans son bureau et leur dit, vous ne sortirez pas avant qu'on ait trouvé une solution pour régler ce problème. Et bien que les banques de l'époque soient beaucoup plus privées, qu'elle n'ait jamais été. Malgré tout, on réussit quand même à peu près à les enfermer avec le gouverneur de la Banque de France, et on leur dit, voilà, il faut sauver le comptoir d'escompte. Le comptoir d'escompte a besoin probablement de plusieurs dizaines de millions pour s'en sortir. Comment est-ce qu'on fait ? Les banquiers disent, ah, ben, la Banque de France va prêter, elle est là pour ça. Et la Banque de France, le gouverneur dit, ah, mais pas question, je veux des garanties des autres banques. Et donc, on se met d'accord sur un schéma. La Banque de France va prêter 100 millions. Les banques vont garantir ces 100 millions à hauteur de 20 millions. Et on va se répartir ces risques, etc. Bon, tout ça pendant la soirée, ça finit à 3h du matin. Le lendemain matin, le gouverneur de la Banque de France convoque son conseil général et leur dit, ben voilà, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et alors là, il y a plusieurs membres du conseil général qui disent, ça ne va pas du tout, là. Regardez ça. Et il y en a qui se retournent vers leur copain, vers M. André, qui est là, et dont tout le monde sait qu'il est lié à ça, et qu'il est indirectement lié à ça. Et puis ils se retournent vers Rothschild en disant, oh, vous ne seriez pas un peu lié à cette opération ? Rothschild dit, oh non, pas du tout, ça fait des mois, moi je n'ai plus aucun lien avec eux, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'il est sorti assez vite. Mais il n'empêche que il y a une tension au sein du Conseil général, ce qui arrive assez rarement, et surtout que ça se voit dans les PV qui sont restés dans les archives, c'est que vraiment ça s'est mal passé. C'est mis aux voix et c'est voté d'extrême justesse, à une voix de majorité. Et un des principaux leaders, si on peut dire, du Conseil général, le banquier Comte de Pilléville, qui est là depuis des dizaines d'années, dont la famille a toujours été au Conseil général de la Banque de France depuis sa fondation ou presque, donne sa démission dans les jours qui suivent pour marquer sa désapprobation et en gros le fait qu'il soupçonne qu'il y a un véritable conflit d'intérêts au sein de la Banque de France, c'est-à-dire que les banquiers qui sont au Conseil général de la Banque de France ont sauvé le comptoir d'escompte pour sauver leur propre banque, pour sauver leurs propres intérêts qui étaient menacés par cette opération. Donc, ça se passe mal, mais néanmoins, c'est fait. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il fallait le faire ? Est-ce qu'il fallait le faire ? Alors, quelles sont les pertes possibles ? Hein, vous vous souvenez, la doctrine de Bechtold, c'est sauver une banque si il y a un risque systémique, donc si on risque de voir d'autres banques être entraînées dans la faillite de celle qu'on sauve, donc on la sauve si on évite comme ça une crise bancaire nationale et pas simplement localisée sur une banque, et si elle apporte des garanties incontestables, c'est-à-dire si elle a un problème de liquidité mais pas un problème de solvabilité. Or ici, la solvabilité ne va pas de soi, hein, puisque on est au moment où le prix du cuivre s'effondre. Tout le monde voit bien qu'effectivement, une fois qu'il va s'effondrer, il y a une partie des crédits qui ne seront plus garantis par les cuivres. Et donc, il faut essayer de calculer qu'est-ce qui reste. Alors, j'ai fait trois calculs, parce qu'en fait, il y a, comme toujours dans ces moments de panique, tout change extrêmement rapidement. Donc, on a des bilans espacés à quelques jours d'écart, qui ne sont pas faits exactement de la même manière, qui essayent de masquer au début des opérations, peu à peu se dévoilent. Globalement, les pertes du comptoir d'escompte dans l'opération, on peut les évaluer entre 30 et 80 millions. Les fonds propres du comptoir d'escompte, c'est 80 millions. Donc déjà, s'il perd 80 millions, en gros, il ne reste rien. Donc il est en faillite, manifestement il est insolvable, la banque ne doit pas intervenir. À ceci s'ajoute, au-delà des pertes directes sur les crédits accordés par le comptoir d'escompte, et donc une fois déduite la valeur des garanties, hein, des stocks de cuivre en question, à ceci s'ajoute la garantie promise par le comptoir d'escompte sur les cuivres à livrer dans le futur. Il y en a encore à échoir. Hein. On est en 89, il y a encore des cuivres à arriver pendant toute l'année, et en 1890. Au total, il y en a encore pour près de 100 000 tonnes. C'est encore 100 millions à payer, 100 millions sur lesquels il y aura des pertes, parce qu'on s'est engagé à les acheter à un prix qui est supérieur au cours qui va devenir le cours de marché désormais. Et donc, si on regarde tout ça, eh bien, manifestement, le comptoir d'escompte est insolvable. Donc, il ne faut pas intervenir, il faut le liquider et il faut essayer de le liquider de manière correcte. Alors la solution adoptée va être un petit peu à mi-chemin, puisqu'on va à la fois sauver le comptoir d'escompte au sens où on va faire en sorte que tous ces créanciers soient effectivement payés, c'est-à-dire que les déposants ne perdent rien, etc. Mais on va quand même le liquider, au sens où on va faire une liquidation à l'amiable, en créant une nouvelle société qui va s'appeler le comptoir national d'escompte de Paris, qui va reprendre toute la clientèle, les bureaux, etc., du comptoir d'escompte. Et en gros, c'est seulement les actionnaires du comptoir d'escompte qui vont perdre. Et même les actionnaires, on va leur donner le droit de souscrire à un tarif modeste au comptoir du nouveau comptoir d'escompte, de manière à ce qu'ils aient éventuellement la possibilité de se refaire si l'activité reprend correctement. Ça, c'est une partie du règlement. Une autre partie du règlement, c'est que on va demander aux tribunaux français de regarder les choses intelligemment. Et les tribunaux vont effectivement aider. Qu'est-ce qu'on va demander aux tribunaux ? Ben, les tribunaux vont être obligés de dire si ces contrats avec les mines sont valides. Le comptoir d'escompte va dire, mais non, ces contrats valent rien, c'est des contrats de pure spéculation. Et c'est clair que c'est des contrats de pure spéculation. Et donc on doit pouvoir les annuler. Et effectivement, le droit permet, à cette époque-là, de considérer que s'il y a des opérations spéculatives, les pertes doivent être partagées entre tous les spéculateurs. Et donc la question, c'est de savoir si, en participant à cette opération, les compagnies minières sont en quelque sorte elles-mêmes des spéculatrices, auquel cas, eh bien, leurs gains dans l'opération pourraient être supprimés de la même manière que les gains potentiels du comptoir d'escompte ou de la société des métaux. Et les tribunaux vont effectivement trancher dans ce sens-là. Ça arrange bien tout le monde parce que ça, évidemment, ça évite au comptoir d'escompte d'avoir des dettes considérables supplémentaires. Il se trouve que, pour une raison très mystérieuse, les tribunaux anglais, devant lesquels on va également porter ça, vont trancher en sens inverse. Mais, heureusement, les actifs que peuvent récupérer les compagnies minières appartenant au comptoir d'escompte ou à la société des métaux en territoire britannique sont assez faibles, de sorte que, essentiellement, c'est la décision des tribunaux français qui s'impose et qu'une grande partie de la dette potentielle qui pesait sur l'avenir du comptoir d'escompte est annulée. Donc on a, hein, vous voyez que cette clause juridique est un peu l'équivalent de l'exception de jeu qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc on a toujours ce genre de considération en jeu. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette intervention était nécessaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on avait effectivement un risque systémique ? C'est-à-dire, est-ce que les autres banques allaient être affectées par cette... Et quand on regarde, alors là, on a pris les cours hebdomadaires des principales banques, Société Générale, Société de dépôt et de compte courant, Paribas, le comptoir d'escompte tout en haut, le Crédit Lyonnais ici, en noir, et la Banque de France tout en bas. Alors, il y a une chose qui est frappante, c'est que, et en bleu, c'est la Société des métaux, donc c'est évidemment... Les métaux au cœur de l'opération. On voit que le cours de l'action de la société des métaux baisse progressivement. C'est logique, au fur et à mesure que monte la crainte que cette opération tourne mal. Le comptoir d'escompte est touché très tardivement parce que pendant très longtemps, les gens ne se rendent pas compte du degré de son implication. Et malgré tout, lui n'est que, en quelque sorte, impliqué indirectement. Hein. Celle qui est impliquée directement, c'est la société des métaux. Et le comptoir d'escompte va perdre effectivement à peu près toute sa valeur. Les autres banques, ben, y a Paribas, dont on a vu qu'elle est impliquée dans l'opération. Paribas, le cours de son action va passer d'à peu près 900 à peu près 700. C'est pas rien, mais à 700, ça se stabilise. Et effectivement, une variation de ce montant à peu près sur les actions de Paribas, ça représente à peu près le montant que Paribas perd dans l'opération des cuivres, c'est-à-dire eux-mêmes, avec prêter de l'argent à la société des métaux, ils vont perdre de l'argent là-dessus, etc. Bon, ils y arrivent. Donc, elle perd, et puis c'est tout. Et les autres banques, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire que même en regardant vraiment très très en détail les variations des cours, il n'y a pas d'impact sur les autres banques. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur les autres banques? Mais tout simplement parce qu'il y a très très peu de crédits interbancaires à cette époque-là. Donc dès lors que les gens pensent que le comptoir d'escompte est en difficulté, mais bon, dans le pire des cas, il fera faillite. Éventuellement, Paribas aura des difficultés. Mais les autres banques n'ont pas de raison d'être fortement touchées dès lors que le marché monétaire est contrôlé essentiellement encore par la Banque de France et le marché des reports en bourse fonctionne bien, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur les autres banques. D'ailleurs, la presse ne dit rien de quelconque ruée des déposants auprès des autres banques. Et quand on regarde, pour la seule banque pour laquelle on ait cette information conservée, quand on regarde les entrées et sorties de dépôts quotidiens de la Société Générale, on s'aperçoit que pendant cette période, elle accroît ses dépôts, c'est-à-dire qu'en fait, les gens prennent de l'argent au comptoir d'escompte et ils vont le mettre à la Société Générale, à la Banque de France, au Crédit Lyonnais, ce qui est effectivement ce à quoi on peut s'attendre si les gens ne craignent pas qu'il y ait une crise systémique et qu'ils pensent que c'est une crise complètement idiosyncratique liée à une espèce d'aberration, de folie passagère qui a pris les dirigeants du comptoir d'escompte d'aller se mettre dans cette opération de cuivre dans laquelle ils n'avaient rien à faire. Donc il semble bien que ce qui manquait, c'était une véritable justification d'intervention. Alors, est-ce que c'est vraiment pour instrumentaliser la Banque de France et sauver leurs propres intérêts que les gens sont intervenus? C'est pas clair parce que malgré tout, il y a une demande politique. Il y a le ministre des Finances, il y a cette inquiétude à la veille de l'exposition universelle qui est il faut sauver Paris de cette catastrophe que serait la faillite d'une grande banque à la veille de l'exposition universelle. Au total, cette opération montre une autre forme d'innovation en termes d'intervention de la Banque centrale. La Banque de France, dans ce cas-là, n'est pas intervenue simplement pour mettre de la liquidité, fournir de la liquidité à une banque solvable et qui avait des actifs de bonne qualité. Elle a sauvé une banque insolvable. Ceci n'est plus arrivé, apparemment, jusque très récemment, où en 2008, les banques centrales, d'abord aux États-Unis puis en Europe, ont décidé qu'il fallait éviter que toute banque de très grande taille fasse faillite. Ce que l'on sait, c'est que dans ce cas-là, le problème majeur, ce n'est pas seulement qu'il faudra absorber des pertes. En l'espèce, la Banque de France n'a pas eu de pertes. Elle a eu, grâce aux garanties des autres banques, grâce au fait que le cours du cuivre a quand même légèrement monté, que le comptoir d'escompte avait d'autres actifs qui ont pu remplacer. Au total, les actionnaires du comptoir d'escompte ont tout perdu, mais la Banque de France n'a rien perdu. Mais en dehors de cet aspect-là, le risque, c'est évidemment que les banquiers se mettent à faire ça de plus en plus souvent, à prendre des risques, en sachant que la Banque centrale va intervenir et va régler le problème à la fin. Alors, une des choses qui ont été faites à l'époque, et peut-être un peu moins ces dernières années, c'est que les banquiers qui ont fait ça, ils en ont pris vraiment plein la figure quand les choses ont été réglées. Tous les gens qui participaient à ces petits jeux de conflits d'intérêts et qui travaillaient à la Banque de France, enfin qui étaient soit au conseil d'administration de la Banque de France, soit qui étaient les censeurs de la Banque de France, c'est-à-dire ceux qui étaient censés vraiment être l'espèce de directeur des risques, qui surveillaient particulièrement la prise de risque, ont été remerciés. Ceux qui étaient le président du comptoir d'escompte a été remercié, le directeur de Paribas a été remercié, enfin, tout un paquet de gens qui ont perdu leur job. Parmi eux, évidemment, le directeur de la Société des métaux, lui, il n'a pas seulement été remercié, il a eu un procès, il a été mis en prison, de la même manière d'ailleurs qu'en 1882, le patron de l'Union Générale avait été condamné à 5 ans de prison et n'avait dû qu'à la fuite en Espagne d'éviter de passer réellement ces 5 années en prison. Donc il y a des sanctions importantes, en termes pénals. Il y a des sanctions financières importantes. On va poursuivre les membres du conseil d'administration, du comptoir des comptes et de la société des métaux sur leur fortune personnelle, et on va réellement leur prendre tout, au point qu'on trouve dans les archives de la Banque de France une note datée de 1905, donc 15 ans après l'opération, dans laquelle on discute pour savoir s'il faut aller saisir des actifs d'héritiers du directeur la Banque de Paris et des Pays-Bas, pour lesquels l'héritage serait en partie constitué d'actifs qui auraient été acquis avant 1889. Donc, vous voyez le degré auquel on va réellement poursuivre le recouvrement de toutes les dettes de ces gens-là, hein, avec l'idée que les membres de conseil d'administration sont responsables, et responsables personnellement sur leur propriété, des actions des banques, des actions des entreprises qu'ils gouvernent. Donc cette partie de sanctions très forte est peut-être ce qui fait que malgré cette intervention dont je vous ai dit qu'elle était plus justifiée politiquement que financièrement et qu'elle pouvait être soupçonnée d'être entachée de conflits d'intérêts, cette intervention n'a pas débouché sur d'autres prises de risques similaires et il n'y a pas eu de crise bancaire du même genre dans les décennies qui ont suivi, de sorte qu'on peut considérer qu'elle a été malgré tout bien effectué techniquement, au sens où la Banque de France, l'économie française n'y ont apparemment rien perdu. Voici ces deux épisodes donc, dans lesquels on voit une banque centrale inventer en cours de crise des nouvelles solutions qui, à certains égards, ont été retrouvées dans la crise récente, hein, où on a vraiment dû intervenir pour sauver le marché de la liquidité interbancaire à un moment, où on est intervenu pour sauver des banques qui étaient insolvables à d'autres moments, d'une manière un peu comparable. Évidemment, les outils techniques sont différents, les produits dans le détail sont différents, mais sur le fond, comme on dit parfois, plus ça change, moins ça change. Je vous remercie. Évidemment, je suis disponible pour toutes vos questions éventuelles.
Il y a eu là aussi des crises de ce genre dans les années 1930, le crédit Anstalt.
Alors, dans les années 30, il y a une série de crises, à la fois en Europe et des crises bancaires aux États-Unis, un peu dans tous les pays. Dans les années 30, c'est très compliqué parce qu'il y a une dimension internationale très importante en Europe. C'est-à-dire entre la crise autrichienne, les crises bancaires allemandes, les crises françaises, anglaises, etc., il y a un entrelac de choses qui font qu'il y a une dimension de crise financière, une dimension de crise monétaire, au sens où les monnaies sont attaquées, et une dimension de crise politique, voire diplomatique, parce que j'ai des problèmes de relations entre pays, sont mêlés là-dedans les conflits sur les dettes de guerre, sur les réparations, etc. Donc, c'est des opérations beaucoup plus compliquées que ce qu'on voit à cette époque-là, où c'est des crises en quelque sorte assez simples et pures, si vous voulez. Autre question ?
C'était des sociétés de personnes ou des sociétés de capitaux, ces banques ?
Alors, les banquiers d'affaires étaient en général en société de personnes. Donc les Rothschild, Hensch, André Giraud, Ferrari, Paccard, tout ça c'était des sociétés de personnes. Le comptoir d'escompte, la Banque de Paris des Pays-Bas, la Société des métaux, etc. étaient des sociétés anonymes. Mais avec une conception de la société anonyme dans laquelle le directeur et le conseil d'administration avaient une responsabilité effective, personnelle, même si la société elle-même, c'est-à-dire les actionnaires, n'étaient pas engagés au-delà de leurs apports. Ouais. Et donc ça, ça fait une différence.
Et la faillite est perdue aux membres de la direction.
Absolument.
Ça a dû leur coûter cher.
Oui.
Il y en a qui ont réussi à cacher une partie de leur fortune. Monsieur Hensch, qui donc était à la tête du conseil d'administration du comptoir des comptes, on a repéré, et donc on l'a forcé à restituer un certain nombre d'actifs immobiliers qu'il a fait acheter au nom de sa femme 15 jours avant que les choses dégénèrent. Et évidemment, bon, vous voyez, dans les syndics de faillite, etc., vont ensuite chercher toutes les opérations, etc. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a quand même, évidemment, légitimement des protections des enfants, des femmes, des machins, etc. Mais il n'empêche qu'ils sont allés lui reprendre un hôtel particulier à Paris qui valait près d'un million de l'époque, ce qui était encore... voilà. Donc c'était des grosses... il y avait des vrais enjeux sur les personnes qui, effectivement, on n'a pas réellement retrouvé depuis, à ma connaissance.
Si on reprend la faillite du Calais il y a une année, est-ce qu'on n'a pas transformé une action comme celle de la Banque de France par une action de l'État, c'est-à-dire du trésor, de la richesse publique, des gens? C'est pas un artifice.
En fait, il y a deux choses. Il y a l'action de la Banque centrale, c'est une action pour éviter un problème de liquidité extrêmement, à extrêmement court terme. Et il n'y a guère que des banques, et en particulier la Banque centrale, qui puissent intervenir en quelques jours ou quelques heures pour assurer la liquidité à un moment où plus personne ne prête et à une banque. Et elle-même doit faire face à ses paiements, sauf à être mise en faillite. Ensuite, il y a le problème de solvabilité, qui effectivement a été réglé dans le cas du Crédit Lyonnais par l'intervention de l'État. Et en pratique, dans le cas du Crédit Lyonnais, on a évité une panique de liquidité, parce que l'État a assuré, avant même que la panique ait lieu, que de toute façon, c'est lui qui paierait. Évidemment, en faisant ça, on court le risque d'encourager des comportements similaires à ceux de M. Avrère à ce moment-là. Et c'est vraiment l'inquiétude auquel donnent lieu les prises de risque accrues depuis deux décennies en matière financière. Parce qu'évidemment, si on a chaque fois on sauve les entreprises et que dans le pire des cas, on remercie les dirigeants, bon. Et le risque qu'on recommence est fort, et effectivement, il y a eu un certain nombre de cas où on a recommencé.
Est-ce que ce n'est pas la même chose en ce moment quand on dit qu'on aurait dû nationaliser les banques il y a un an ou deux pour éviter toutes ces fluctuations qu'il y a eu ?
C'est-à-dire que nationaliser les banques peut permettre en partie de payer l'État des risques qui sont pris. Alors, c'est-à-dire que si l'État fournit des garanties, qui donc vont lui coûter potentiellement un certain montant, la logique telle qu'elle était appliquée en 1889, c'est les actionnaires payent. Donc, les actionnaires perdent, éventuellement perdent tout. Alors, le problème, c'est d'évaluer ce que doivent légitimement perdre les actionnaires. C'est-à-dire, si les pertes sont supérieures au capital, les actionnaires doivent perdre tout, et à ce moment-là, on peut nationaliser et revendre à d'autres actionnaires. En gros, ce qui s'est fait en 1889, hein, il n'y a pas eu de nationalisation. En fait, on a recréé une nouvelle société, on a revendu à de nouvelles personnes le droit d'exploiter la marque et l'activité. Mais tous les anciens actionnaires ont perdu. On pourrait refaire ce genre de choses. C'est compliqué à faire parce qu'il faut d'abord être sûr que les actionnaires, en gros, ont tout perdu, faute de quoi ils peuvent protester légitimement. Donc ça, c'est le point délicat. Ensuite, il est évident que si on s'emballe dans ce genre de choses, il faut trouver des instances légitimes pour évaluer ces pertes. C'est une chose qui n'existe pas réellement aujourd'hui, où il y a une crainte que toute instance à qui on donnerait ce pouvoir puisse en abuser. Et donc là, il y a quelque chose comme une légitimité à construire pour une institution qui pourrait prendre ce genre de décision. C'est pas facile. Les États ont une certaine légitimité. L'ennui, c'est que les banques, dans une large mesure, maintenant, ont une activité plurinationale. Et donc, c'est compliqué pour un État de le faire sans l'accord des États voisins dans lesquels ces banques sont impliquées ou ont des créances ou des dettes très importantes. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce que ce genre de solution soit prise à un moment ou à un autre quand on renoncera à la solution qui, évidemment, est la plus sympathique, qui est faire créer de la monnaie par la Banque centrale, qui évidemment à court terme ne coûte rien à personne. On crée de la monnaie, tant qu'il n'y a pas d'inflation, ça ne coûte pas grand chose à personne et ça rapporte énormément aux banques à qui on prête. Donc c'est une solution généralement très bien acceptée. Quand il n'y a pas de perdants ou qu'il y a beaucoup de gagnants, enfin qu'il y a des gros gagnants, c'est accepté. Sauf qu'il y a un moment où les gens se rendent compte que malgré tout, ça coûte aux autres, et puis que ça pose un problème d'équité, de savoir qu'il y a des gens qui sont systématiquement sauvés, alors que d'autres, les industriels, etc., qui sont dans des situations similaires, se font liquider. Autre chose ?
Ce problème qui est d'actualité sur la séparation des dépôts des particuliers, des dépôts privés et des investissements. C'est un problème tout à fait clair, bien sûr, mais est-ce qu'on peut imaginer de trouver une solution et de trouver un règlement qui sépare bien les deux, qui évite que les dépôts soient perdus en cas de financière.
Bon, vous voyez, même quand on avait des banques de dépôt séparées des banques d'affaires, dans certains cas, les banques de dépôt pouvaient se comporter comme des banques d'affaires et se faire embarquer et se faire mettre en difficulté. Néanmoins, la séparation a l'avantage que on peut surveiller et réglementer les banques de dépôt d'une manière qui veille à la protection des déposants, tout en n'empêchant pas des banques d'affaires de faire des opérations risquées. Alors, la grosse difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de les séparer légalement. Il faut ensuite éviter que des banques de dépôt se fassent embarquer directement ou indirectement, comme le comptoir d'escompte en 1887-88, dans des opérations risquées. Or ça, ce n'est pas forcément facile à faire, au sens où il est toujours possible d'inventer des nouveaux types d'opérations, de garanties, etc., qui ne soient pas observables dans les termes des réglementations existantes et qui amènent à créer ce genre de risque. Donc il y a toujours une espèce de course-poursuite entre le régulateur qui cherche à observer bien la situation de risque de chaque établissement, etc., et puis l'innovation financière qui créer en permanence des nouveaux outils, non pas simplement ou pas uniquement pour contourner la réglementation, mais pour offrir les services que demandent ses clients. Et les clients demandent des services. Les banques craignent de perdre leur clientèle si elles ne fournissent pas à peu près ces services. Craignant de perdre cette clientèle au profit de leurs concurrents, elles sont amenées à inventer des solutions qui, quelquefois, a posteriori, s'avèrent extrêmement risqué. Et c'est un des cœurs du problème, c'est que la concurrence entre banques est une concurrence qui est puissamment créatrice de risques. Elle est créatrice de richesse en partie, mais elle est aussi créatrice de risques. La concurrence entre industriels, dans une large mesure, c'est surtout une concurrence qui amène à faire des innovations techniques qui réduisent les coûts. Et donc, c'est fondamentalement de la création de valeur. Donc, la concurrence est essentiellement bénéfique en matière industrielle. Même si, dans certains cas, ça peut amener à avoir des comportements de prise de risque aussi, soit pour la santé des salariés, soit pour la santé des clients. Enfin bon, on connaît un certain nombre d'exemples récents. Mais il semble que la concurrence en matière financière conduise de manière à peu près systématique à tendre vers l'accroissement du risque, ce qui justifie une réglementation un peu spécifique de ce secteur par rapport à d'autres. Donc la séparation des banques de dépôt et de banques d'affaires, c'est une possibilité, c'est probablement une chose utile, mais c'est une chose extrêmement difficile à faire dans le détail et sur laquelle il faut probablement en permanence veiller. Une autre solution qui est complémentaire, qui est un peu la conséquence de ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut probablement aussi remettre de la responsabilité individuelle dans le fonctionnement de la finance. Après tout, les revenus très très élevés sont bien des revenus individuels, il ne serait pas forcément absurde que les sanctions soient aussi individuelles.
Oui. Si j'ai bien compris, dans les années 1880, il y avait une taxe sur les transactions financières. Comment se fait-il qu'on n'en ait pas aujourd'hui ?
Alors, il y a une taxe, en fait, il n'y avait pas de taxe dans les années 1880, mais il y en a une qui est créée en 1893.
à la suite en fait, de ces crises. Avant, la taxe était une taxe interne, c'est-à-dire c'était une espèce de la compagnie d'avant-change se finançait en prélevant une taxe sur ses propres opérateurs, mais qui en fait était répercutée sur la clientèle, mais en droit, ce n'était pas une taxe. C'est-à-dire ça n'abondait pas le budget de l'État. En 1893, on crée une taxe qui abonde le budget de l'État. Et il y a une seule chose, il y a une chose qu'on peut dire de manière très claire, c'est que cette taxe n'a pas empêché le développement des marchés financiers à cette époque-là. Elle rapporte des montants qui ne sont pas considérables au budget de l'État, qui ne sont quand même pas négligeables, mais l'activité boursière continue tout à fait. Et il n'y a pas de délocalisation massive de l'activité financière dans d'autres places, etc. Cette taxe a survécu jusque récemment, en fait. Elle a été supprimée par Madame Lagarde. Donc, c'est une suppression récente. Mais, essentiellement, elle était restée dans des formes qui étaient celles de sa création au XIXe siècle. Elle n'était pas adaptée aux nouveaux produits, et en particulier, elle ne touchait pas toutes les opérations les plus spéculatives. Donc il y avait une espèce de paradoxe, c'est que les gens qui faisaient des opérations non spéculatives payaient la taxe, mais que les gens qui faisaient des opérations spéculatives ne la payaient pas. Donc c'était assez raisonnable de la supprimer. Ce qui serait raisonnable encore plus, à mon avis, ce serait de créer une taxe sur les opérations spéculatives qui ne touchent pas les opérations non spéculatives. D'ailleurs, en vrai dire, les opérations non spéculatives, ce n'est pas très grave de les taxer, parce que quelqu'un qui fait trois opérations sur titre par an, payer 0,05% sur le montant de ces opérations, ça ne lui importe pas beaucoup. En revanche, les opérations, les opérateurs très spéculatifs qui font des allers-retours toutes les 5 secondes, achat-vente par arbitrage sur le marché, il semble que eux, taxer ces opérations va probablement faire réduire beaucoup leur quantité, va réduire la liquidité un petit peu sur les marchés, mais en revanche, va faire réduire aussi substantiellement les risques qui sont le produit de ces opérations. Donc, comme vous voyez, je suis favorable à un rétablissement de ces taxes à un taux faible. Je pense que l'activité financière est utile, donc il est bon qu'elle puisse avoir lieu. Maintenant, qu'il y ait des arbitrages toutes les secondes sur les mêmes titres, uniquement pour tirer bénéfice des quarts de prix qui sont inférieur à 0,1% n'a pas beaucoup de sens. Et donc, il y aurait une petite taxe qui freinerait un peu ce genre de choses, ça n'aurait pas un gros problème.
0% n'a pas beaucoup de sens si le montant est faible, mais si on travaille sur des énormes montants, 0,1% c'est énorme.
Oui, bien sûr, oui. Non, mais ça rapporte beaucoup d'argent, mais ça crée aussi beaucoup de risques. Et on ne se rend pas compte, on est dans des situations où on est comme en 1882 avec ces masses d'opérations sur les marchés à terme. Aujourd'hui, c'est des produits dérivés plus sophistiqués, mais le principe est le même, hein, c'est qu'on fait des opérations de paris sur des variations de cours en engageant extrêmement peu de capitaux sur le moment, ce qui permet de gagner même sur des très très petites variations. Ça crée du risque pour l'ensemble du système financier et donc pour l'ensemble de l'économie. Et donc, il me semble qu'il faut qu'il y ait un arbitrage entre les gains en termes de liquidité et de bon fonctionnement du marché qui résultent du fait qu'il y a beaucoup d'opérations et les coûts qui sont l'accroissement du risque qui en résulte également. Et il est probable que la situation idéale, elle n'est pas avec zéro taxe, elle est avec une taxe probablement très faible, je ne sais pas quel montant, c'est quelque chose qu'il faut étudier soigneusement avant de le faire, parce qu'il n'est pas bon de restreindre les opérations au-delà, jusqu'au moment où ça devient nocif pour l'économie, mais je ne vois pas bien comment la taxe optimale peut être zéro, dès lors qu'il y a un coût en termes de risque qui résulte de la multiplication exagérée de ces opérations.
Quand est-ce que le marché à terme a été supprimé ? Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques dizaines d'années.
Ah oui, le marché à terme au sens strict. Mais en fait, il existe toujours un marché à terme qui est...
Mais il n'est pas remplacé maintenant plus ou moins par les WARA ou les CDS.
En pratique, on fait un marché sur... on fait, disons, le marché, c'est fondamentalement aujourd'hui un marché de futur, c'est-à-dire des opérations à terme standardisées qui sont elles-mêmes rééchangées. Mais conceptuellement, l'outil de base d'une très très grande partie du marché financier, c'est l'opération à terme, c'est une opération dans laquelle on s'engage à faire un paiement pour un produit donné à une échéance donnée. Ensuite, simplement, ce contrat standard est transformé lui-même en produit financier qui est lui-même échangé, sur lequel on peut lui-même faire des opérations à terme, etc. Le fait qu'on ait supprimé le marché à terme pour des instruments plus sophistiqués ne fait qu'en fait approfondir en quelque sorte le degré de sophistication du marché, mais ne change pas réellement sa signification.
Est-ce que sur le cuivre, il ne s'est pas passé un peu la même chose qu'en 1889, parce que le cours du cuivre a quasiment doublé en 5 ans, et que les stocks étaient entre les mains de 2 ou 3 opérateurs.
Alors, il se passe des choses du même genre
à vrai dire, assez régulièrement sur les marchés des métaux, et en particulier sur le marché du cuivre. Je n'ai pas jamais fait une étude systématique de ça, mais il y a au moins 4 ou 5 épisodes depuis 1889 dans lesquels il y a des groupes qui cherchent à prendre le contrôle du marché. Alors, pour l'anecdote, en 1890, un grand économiste américain écrit un article dans lequel il explique que les Français sont bien gentils à vouloir prendre le contrôle du marché du cuivre, mais quand on veut contrôler un marché, il faut le faire, ça rapporte beaucoup d'argent, mais il faut y mettre les moyens. Et nous, les trusts, on sait faire, écrit-il, mais les Français, ils ne sont pas au niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent, prendre réellement le contrôle, acheter les mines, etc. Et là, vous pouvez prendre le contrôle du marché. Et il explique que c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire aux États-Unis.
Voilà. Est-ce que ce n'est pas le cas actuellement?
Je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a un certain nombre d'indications dans ce sens-là, effectivement. Bon, il va falloir que je vous laisse parce que j'ai mon train à reprendre. Mais je vous remercie.